Vincent Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une star mondiale dont les plus grandes chanteuses ou actrices américaines sont littéralement tombées amoureuses. Nicki Minaj, Beyoncé, Kim Kardashian, Michelle Williams, Rihanna, Gwen Stefani, Jennifer Lopez ou Katy Perry. Toutes se sont un jour ou l'autre affichées avec lui devant les photographes. D'Hollywood à Bamako, de Paris à Douala, d'Abidjan à New York, de Milan à Accra, de Cotonou à Londres, le wax est devenu un phénomène mondial qui fait la couverture des magazines de mode ou de décoration et a pris toute sa place dans les garde-robes féminines mais aussi masculines. Comment a éclos et évolué cet engouement? Que nous racontent ces imprimés qui en disent souvent très long? On a coutume d'appeler le wax tissu africain, mais mérite-t-il réellement cette étiquette? Pour dérouler et décoder l'histoire du wax, Anne Grosfilet, anthropologue, commissaire d'exposition, consultante pour des entreprises et des créateurs, est avec nous. Elle publie Wax 500 tissus aux éditions de La Martinière et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Anne Grosfilet.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer le travail des dessinateurs, des coloristes auxquels vous rendez hommage dans ce nouveau livre, on va ouvrir une petite page d'histoire, parce que je crois que c'est quand même important de remettre un certain nombre de choses en perspective et à leur place. C'est d'ailleurs ce que vous faites dans l'introduction de cet ouvrage qui commence par une phrase, écrivez-vous, aussi réductrice que provocatrice. Et quand on est journaliste, on aime bien ce qui est provocateur, pas forcément ce qui est réducteur. Mais bon, quand même, donc j'y vais. La phrase, c'est la suivante. Le wax, c'est l'Afrique, et l'Afrique, c'est le wax. Vrai ou faux?
Alors, le wax, c'est avant tout le tissu de la rencontre des cultures, finalement. J'aime bien dire que tout a commencé à l'époque où l'Europe aimait vendre de la glace aux Esquimaux. Donc, à l'époque où la France, par exemple, et d'autres grands empires, comme l'Empire britannique, qui était installé en Inde, industrialisaient les indiennes, donc les imprimés indiens, et allaient ensuite les revendre aux Indiens, au peuple dont qui avait élaboré ces tissus. Et donc les Hollandais, qui étaient eux installés dans l'archipel indonésien, se sont dit bah nous on va faire la même chose avec le batik indonésien. Mais finalement ça s'est pas passé comme ils le voulaient, parce que le batik, c'est une technique très très complexe, donc ça leur a pris plusieurs dizaines d'années pour élaborer ce tissu qui devient le wax. Et quand ils viennent le vendre en Indonésie, ils ont perdu leur mainmise politique et économique. Et puis, les artisans indonésiens aussi ont modernisé, mécanisé, en élaborant un système de tampons. Donc, ils sont à la recherche d'un nouveau marché, et ça devient l'Afrique. Donc, finalement, ce tissu, il est au carrefour rencontre de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Mais paradoxalement, du fait qu'il n'ait pas un ancrage particulier historique très fort dans une culture particulière ou un pays particulier, fait que le wax est le seul tissu aujourd'hui qui a cette dimension pan-africaine et fédératrice, et donc dans lequel se reconnaît tout un continent.
Alors vous avez employé un mot important, c'est le mot batik, une technique donc indonésienne. Alors on va pas être trop technique, mais dites-nous-en quand même un tout petit peu plus, Anne Grosfilet. C'est quoi, quelles sont les grandes étapes de la fabrication du tissu à travers cette technique batik, donc ancêtre du wax?
Alors en fait, le tissu, on trace le motif des deux côtés du tissu avec une réserve qui peut être de la cire ou une résine végétale.
Et ensuite, wax, ça veut dire cire en anglais, hein, donc c'est important évidemment de le préciser.
Voilà, donc c'est l'origine, le batik est fait à base de cire d'abeille, mais le vrai wax, et on utilise une résine végétale. Ensuite, le tissu est teint dans l'indigo ou dans une autre couleur. Puis cette réserve est supprimée de manière partielle ou totale, et ensuite il est imprimé à l'aide de tampons qu'on appelle blocs. Donc c'est un tissu qui passe par une vingtaine d'étapes en fait, vraiment un tissu de luxe et de prestige, qui est réservé, teint et imprimé. Donc très très complexe au niveau de sa fabrication.
Donc on a un très très long processus effectivement de production. Alors certains disent que le procédé existait déjà dans l'Égypte ancienne, du temps des pharaons. Vous pouvez nous confirmer ça, ou c'est une fake news, comme on dit?
Je pense que c'est une vraie fake news, oui.
D'accord, très bien. Mais c'est toujours intéressant de le préciser, parce qu'on trouve beaucoup de choses sur le net. C'est pas dans le livre, je tiens également à le préciser. Mais avec le temps, justement, Anne Grosfilet, est-ce que le processus de production a changé? Est-ce qu'il est aussi compliqué, aussi artisanal presque, que ce que vous venez de décrire là, dans les usines de wax d'aujourd'hui?
Alors, au tout début, et jusque vraiment encore au début du 21e siècle, cette impression se faisait manuellement avec les tampons en bois recouverts de feutrine. Et puis aujourd'hui, ce système de blocking est fait avec des rouleaux, mais garde ce côté aléatoire qui fait que chaque mètre de tissu de véritable wax est toujours différent d'un mètre à l'autre. On a toujours ce que les fabricants aiment bien appeler les parfaites imperfections, parce que justement il y a tous ce tissu passe par différentes étapes de lavage, etc., où le tissu est retendu. Donc on aura toujours ce côté un petit peu irrégulier du véritable wax.
Alors, cette technique-là, les Anglais et les Néerlandais s'en sont donc emparés pour produire leur propre tissu dans le but justement de les revendre dans leur colonie, dans leur empire colonial. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché?
Ça n'a pas marché parce que déjà, comme je vous disais, le contexte économique avait changé en Indonésie. Les Indonésiens avaient mécanisé, ils avaient développé un système de tampons en cuivre qu'on appelle le chap. Et puis aussi, les premiers wax avaient beaucoup de craquelures et c'était un élément disgracieux que les artisans indonésiens évitent. Donc ils n'avaient pas bien compris les codes en fait. En revanche, comme ces tissus avaient une base indigo qui rappelait les teintures artisanales locales d'Afrique de l'Ouest, elles ont tout de suite plu à ces populations.
Donc le marché africain était un marché de substitution tout trouvé.
Tout trouvé, il a fallu quelques années, mais effectivement, dès que
c'est arrivé... Il y avait une forme de logique à ce que les tissus soient envoyés sur ce continent-là.
Tout à fait, et c'est pour ça qu'il y a eu un engouement si rapide. Il y avait aussi le fait que les missionnaires avaient commencé à développer la machine à coudre et à susciter le besoin d'avoir des cotonnades fines que l'on découpait pour les coudre, donc complètement différent de l'usage drapé des étoffes tissées de manière artisanale. Donc il y avait tout un contexte en fait qui a fait que au moment où le wax arrive, qui est aussi un produit de luxe, donc les élites cherchent toujours à se distinguer, notamment par le vêtement. Donc il y a une adéquation parfaite.
Et un certain nombre de femmes ont largement participé à la popularité et à la popularisation du wax en Afrique. C'est les femmes qu'on appelle les Nana Benz. Alors déjà expliquez-nous, Ngrofilé, d'où vient l'expression Nana Benz?
Nana Benz, Nana c'est un terme mina puisque ce sont des femmes qui viennent de la région d'Aného au Togo, qui sont principalement mina mais il y a aussi des évées. Et Nana c'est la femme respectable et Benz en référence au Mercedes Benz puisque leur fortune qu'elles ont fait en vendant du wax leur a permis d'être les premières personnes à pouvoir acheter des Mercedes Benz.
Et donc ça a commencé dans la région du Ghana, du Togo, dans cette zone-là parce que c'est vraiment un commerce transfrontalier, hein.
Alors ça commence à l'époque où le Ghana s'appelle encore Gold Coast, donc c'est là que les premiers wax arrivent et ces femmes font effectivement ce marché transfrontalier hebdomadaire où elles ramènent aussi des perles et elles viennent les revendre dans la région de Lomé. Et puis, comme ce tissu est très nouveau, il y a vraiment un engouement rapide et elles en achètent des quantités de plus importantes jusqu'à négocier pour obtenir l'exclusivité sur les dessins, d'en acheter des quantités énormes jusqu'à un conteneur par semaine. Et leur idée géniale, c'est de se dire, mais pour que les femmes achètent mes dessins plutôt que ceux d'une autre Nana Benz, je vais leur donner un nom. Et le tissu devient, au fil des années, un support de langage de communication non verbale, en fait.
Exorcistes de style qui vont fatiguer, c'est la complainte des exercés d'exil qui me font qu'arriver, qui me font qu'arriver. Les nanas peinent sur bon train, laissez les femmes faire leur chemin. Fait fureur, enveloppant les bas des reins pour ambiancer les ballots, les culs serrés, les ballots en manché, en tchébé, des échassiers, les voix de s'élever. C'est la chanson des exorcistes de style qui vont fatiguer. C'est la complainte des exercices d'exil qui nous font qu'arriver, qui nous font qu'arriver. de l'or sur la route, de l'or puissant tenir tout parfum. Les ménagères comme des balles dans leur merco, blindées jusqu'aux étoiles. La vieille Europe sous l'étole a pu reprendre quelques couleurs sous les vapeurs des femmes d'affaires, brisant leur rang pour nous couvrir de lumière. Des liasses de fruits prises aux douleurs de l'autre bout de la terre. Enchaînés des échassiers, les voix de s'élever. Enchaînés des échassiers, les voix de s'élever.
Les Nana Benz, Alfred Massaï dans VMDN sur RFI avec l'anthropologue, commissaire d'exposition et consultante Anne Grosfillet qui publie Wax 500 tissus aux éditions de La Martinière. Alors la maison historique du wax, Anne Grosfillet, c'est une maison néerlandaise qui s'appelle Vlisco. Elle a été fondée au 19e siècle, en 1846. Il y a à la base, historiquement parlant, un wax hollandais et un wax anglais.
Oui. Et aujourd'hui, c'est la seule société Vlisco, donc c'est Van Vlissingen qui devient Vlisco en 1970, et c'est aujourd'hui la seule production européenne de wax, puisque la société ABC, qui est située dans la région de Manchester, a été délocalisée autour des années 2009 au Ghana. Donc la production ABC se fait maintenant en Afrique, et c'est le vrai wax Vlisco est la seule production européenne.
Mais alors, est-ce qu'il y a justement au niveau de la qualité, au niveau des styles, des différences majeures entre le wax anglais et le wax hollandais, ou est-ce que c'est exactement le même au-delà de la technique?
Alors, je dirais que Vlisco a toujours été le leader vraiment du marché, l'excellence suprême. Et ABC a été un produit toujours haut de gamme, mais un peu les followers. Et donc ils ont toujours, les Anglais ont été moins, eux-mêmes se disent, eux ont été les, Vlisco était les innovators et nous on était les followers. Donc il y a ceux qui créent, Vlisco a toujours été dans l'audace et dans l'expérimentation, alors que ABC avait plus un marché rassurant, avec des choses un peu moins audacieuses, que ce soit dans les couleurs ou dans les dessins. Mais avec une qualité aussi excellente.
Mais alors si moi je vais sur un marché aujourd'hui à Abidjan, à Bamako ou dans une autre ville africaine, le wax que l'on me propose et que moi je peux acheter, il vient d'où?
Malheureusement, à 95%, ce sera ni du véritable wax, ni une production de qualité. Aujourd'hui, c'est l'Asie. Quand je parle d'Asie, c'est la Chine, l'Inde, le Pakistan, qui sont aujourd'hui vraiment les grands producteurs de wax. Alors, c'est plus du vrai wax. On a toujours ce côté recto verso, comme si c'était un batik, mais ce n'est plus un batik. Et vous le reconnaîtrez parce que chaque mètre de tissu est strictement identique. En revanche, on a un excellent rapport qualité-prix. C'est ce qui a séduit les populations africaines qui ont délaissé finalement les imprimés de type fancy qui avaient été développés autour des indépendances à partir des années 1960. Et donc, on a eu la fermeture progressive des sociétés comme Faso Fani au Burkina Faso, Togotex au Togo, Sotiba, Itema au Mali. Aujourd'hui, il n'y a que quelques usines en Afrique. Donc, on a Uniwax en Côte d'Ivoire et on a aussi ATL à Kosombo au Ghana.
Et vous êtes une familière, évidemment, de ces usines. Vous avez, par exemple, très récemment aidé la Maison Dior pour sa collection Croisière 2000 et vous avez emmené la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Curie, à Abidjan, chez Uniwax. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle? C'est vous qui, finalement, l'avez introduite, justement, dans ce milieu, dans cette culture, et qui avez directement participé à la création des modèles?
En fait, tout est parti de mon premier livre consacré au wax, qui s'appelle Wax & Co, qui est sorti il y a 2 ans aux éditions La Martinière. Et donc, elle l'a lu, et ce qui l'intéressait, c'était justement que le wax soit la parole des femmes, quelque part. Et donc, c'est ce qui lui a donné envie de travailler sur le wax, mais elle voulait le faire différemment, puisqu'il y a d'autres créateurs déjà qui ont travaillé sur le wax, que ce soit Jean-Paul Gaultier, Agnès B.
Oui, c'est pas nouveau.
Complètement, vous l'avez souligné tout à l'heure, même au niveau de la clientèle, il y a déjà beaucoup de célébrités qui se sont intéressées à ce tissu, mais elle voulait faire quelque chose de différent. Et donc je l'ai mise en contact avec Uniwax. Et l'idée, c'était de valoriser une production africaine, de montrer aussi que l'excellence était en Afrique, et donc de mettre dans ses collections au même degré d'excellence ce batik imprimé en Afrique, et puis les autres matières comme l'impression chaîne de Bucol, qui est une entreprise lyonnaise, ou bien les soies sauvages avec fil coupé d'Italie. Et d'amener les codes Dior de la toile de Jouy et des cartes de tarot, et de demander aux dessinateurs de les réinterpréter avec les contraintes du batik et aussi les codes du wax. Donc c'était pas du tout de s'inspirer de dessins préexistants, mais de laisser un peu une carte blanche, ou d'ouvrir en tout cas une conversation entre plusieurs cultures textiles.
Mais alors cette conversation, effectivement, pour reprendre le mot que vous venez d'utiliser, est-ce que elle se construit de façon naturelle? Est-ce que ce dialogue des cultures textiles est inscrit dans les gènes, finalement, Anne Grosfilet?
Dans les gènes du wax, oui, je dirais oui, parce que
dans les gènes de la création, de la création textile, de la création vestimentaire, en l'occurrence, parce que les aspirations ethniques, elles sont aujourd'hui absolument partout. Dans le monde. Alors, je ne sais pas si vous appréciez d'ailleurs le terme d'aspiration ethnique, parce que c'est toujours un mot un peu connoté, mais tout le monde comprend ce que ça signifie, quoi. On a un peu l'impression aujourd'hui, et c'est pas encore nouveau, mais que justement les différentes cultures ont besoin de dialoguer, et que finalement le textile, c'est peut-être l'industrie de la mondialisation par excellence.
Tout à fait. Et alors après, il y a le risque de tomber dans l'appropriation culturelle. Donc là, justement, la démarche, c'était au contraire de se positionner dans la valorisation culturelle, et donc d'amener, non pas de puiser dans une Afrique fantasmée, mais d'amener des éléments occidentaux. Donc c'est pour ça que je vous dis la toile de Jouy, quoi, tous les codes Dior, et de demander à ces dessinateurs ivoiriens eux de les réinterpréter. La démarche était totalement inversée. Après, pour revenir au wax, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des éléments du batik indonésien ont été retravaillés, stylisés pour devenir finalement des éléments africains. Et après, comment les femmes les réinterprètent. On a par exemple le dessin qui représente les ailes du Garuda, qui est l'oiseau sacré de Vishnu, qui devient après au Ghana le régime de banane, ou au Togo, les femmes l'appellent l'escargot hors de sa coquille, c'est-à-dire celui qui se mêle des affaires des autres.
D'accord. Alors, mais à propos de la réappropriation culturelle, c'est pas facile à dire dans un micro, c'est un vrai ou un faux débat?
Je pense que c'est un réel débat qui doit être situé vraiment dans sa dimension historique. C'est-à-dire que ce qui est vraiment très très intéressant, c'est de voir que là où les gens se sentent blessés, le débat porte souvent sur des tissus qui sont nés de la réaction et de la rencontre. C'est-à-dire quand Stella McCartney, par exemple, utilise le wax, les gens ont dit oui, mais le wax, en plus, elle a utilisé des tissus hollandais Vlisco, donc c'est un produit européen. C'est justement parce que ce tissu s'inscrit dans une histoire particulière qui est liée à l'impérialisme, de la même façon que quand la chouka a été utilisée, c'est-à-dire cette étole Maasai. Les gens ont dit oui, mais attendez, ce sont des missionnaires qui ont amené des tartans écossais. Et c'est justement parce que ce tissu, finalement, il n'a pas un ancrage. Il raconte quelque chose de conflit ou de souffrance de peuple. Et des tissus qui sont ensuite devenus emblématiques d'une culture, mais qui sont ce que Terence Ranger et Eric Hobsbawm appellent des traditions inventées.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Si on considère que le wax est une vitrine de l'identité africaine ou des identités africaines, on a un peu l'impression que c'est une identité fabriquée. Fabriquée par le design, fabriquée par le marketing, fabriquée par l'industrie, fabriquée pour des raisons exclusivement pécuniaires et pas tellement culturelles.
En fait, ce qui est intéressant, c'est comment un produit de l'impérialisme devient finalement un élément culturel africain. Et aujourd'hui, on passe à une nouvelle étape, puisque ça devient un produit africain. C'est-à-dire, si on prend le cas d'Uniwax particulièrement, qui a collaboré avec Uniwax, ils ont une parfaite traçabilité d'un coton cultivé en Afrique, filé et tissé au Bénin et imprimé en Côte d'Ivoire. Donc, il y a aussi un engagement économique. Donc, aujourd'hui, acheter du wax, ça peut être, si on achète du wax africain, donc du New Wax ou d'Akosombo, ça peut être aussi un engagement économique et une forme de développement.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Anne Grosfilet qui publie Wax 500 tissus aux éditions de La Martinière, avec à l'intérieur du livre des explications et qui nous raconte l'histoire de chaque dessin. Alors c'est un livre qu'on peut parcourir comme ça dans l'ordre, qu'on peut feuilleter au gré des envies de l'œil. Ce qui frappe évidemment tout de suite l'œil du profane, c'est que c'était extrêmement coloré. Dès le départ, il y a eu cette explosion comme ça, cette explosion chromatique.
Alors au début, la technique du wax fait que comme il y avait toutes ces craquelures de cette réserve qu'on n'arrivait pas trop à maîtriser, donc les premiers dessins avaient un fond très très opaque et les éléments arrivaient en contraste beaucoup plus clairs. Donc des fonds très indigo, très sombres qui rappelaient en fait le tie and dye, ou en fait c'est-à-dire les technique traditionnelle de réserve que l'on retrouve déjà dans les fragments des textiles Télém du XIe siècle qui ont été retrouvés dans les falaises de Bandiagara au Mali. Donc la même technique d'un fond très sombre indigo et d'éléments plus clairs. Après, au fil du temps, les dessinateurs et les techniciens comprennent qu'on peut, pour canaliser la réserve, faire des lignes dans le fond ou des petites ondulations, des petits crochets. Et donc, ça va éclaircir les dessins. Et puis, il y a tout ce travail des couleurs qui arrive après. C'est surtout Anker Smith, une autre société hollandaise, parce qu'il y a une période où il y a eu plusieurs sociétés hollandaises et plusieurs sociétés anglaises, qui va développer notamment ce rouge très fort et cette association du rouge et du jaune qui va notamment être très très emblématique des populations Igbo, un énorme marché nigérian et qui aujourd'hui est populaire à travers toute l'Afrique.
Alors le livre remonte en texte et en images le cours de l'histoire, et parmi les pionniers il y a un Écossais qui s'appelle Ebenezer Brown Fleming. Il va lancer sa propre collection, créer ses propres dessins. On est donc à la fin du 19e siècle et on peut dire que, graphiquement parlant, c'est lui qui pose les bases du wax que nous avons aujourd'hui.
C'est vraiment incroyable. Donc Ebenezer Brown Fleming, c'est vraiment le pionnier du wax. Il commence en 1895 et il décède en 1912. Donc ce glossaire de dessins s'arrête au moment de sa mort. Et on se rend compte que ce sont les dessins que l'on retrouve aujourd'hui le plus sur les marchés. C'est-à-dire qu'ils ont traversé 125 ans. On a par exemple la main avec des pièces à l'intérieur qu'on appelle qui est un peu le symbole de l'union fait la force. On a d'autres dessins avec target, une espèce de cible que l'on voit partout, et tout ça ce sont des dessins de 1895, 1902, 1906 qui sont revenus sur le marché de façon cyclique. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de voyager en Afrique, vous les trouverez pas nécessairement, parce que les femmes justement spéculent en les mettant à un moment sur le marché, en les retirant volontairement pour jouer entre l'offre et la demande, et ensuite elles demandent aux industries de les réimprimer, parfois dans des nouveaux coloris. Et c'est l'occasion parfois de donner de nouveaux noms. Donc il y a des dessins, par exemple, il y a un sceptre de la royauté Ashanti qui, à la fin des années 60, est réinterprété et devient la fusée Apollo, parce que les gens avaient vu dans les cours communes cet événement majeur dans les télévisions à l'extérieur. Donc ça devient fusée Apollo. Et puis à la fin des années 80, ça devient le tire-bouchon. Donc quand le dessin sort du marché puis revient, il peut faire l'objet de nouvelles réinterprétations.
Alors on retrouve plusieurs exemples dans ce livre. Il y a la main qu'on a évoquée à l'instant. Et il y en a un autre qui s'appelle Good Husband. Alors là, expliquez-nous déjà le nom et puis décrivez-nous.
Alors c'est un tissu très détaillé en fait, avec des écritures arabisantes, on va dire, parce que c'est assez difficile de les lire, c'est tellement stylisé que ça a été assez déformé, et au fil du temps c'est devenu un tissu, donc il est assez ancien aussi, il est de 1905. Au fil du temps, il est devenu un tissu incontournable de la dot. Et c'est ce qui est intéressant aussi de cet ancrage du wax, combien il devient vraiment un élément incontournable dans les moments forts de la vie. Et donc, notamment en Guinée, c'est un des tissus vraiment qu'il faut inclure. À Lomé, on en a un qui s'appelle Femme de Lomé. Et donc, au Togo, dans les valises de dot, puisqu'on offre dans la dot, on offre des valises de pagne, il y aura aussi ce dessin incontournable.
Œil de bœuf, également.
Alors, celui-ci aussi, c'est un vieux dessin de 1906, avec un œil qui regarde, un seul œil, mais qui est répété sur toute la surface du tissu. On l'appelle aussi l'œil de Mamadou. Il se réfère un peu au troisième œil. Et c'est assez... son graphisme, en fait, est d'une modernité assez impressionnante. Et c'est là qu'on voit, effectivement, tout le génie d'Ebeney the Brown Fleming et la façon dont... on comprend tout de suite comment ces dessins ont pu traverser le temps, parce qu'aujourd'hui, ils ont encore un graphisme très très fort. Et c'est là que c'est intéressant de les comparer aux imprimés que l'on consommait en Europe à l'époque, où il n'y avait pas finalement cette même audace graphique, où on était plus dans les petits imprimés, ou les poids, etc. Là, on est dans des dessins très très forts, de taille aussi très impressionnante. Et c'est vraiment très frappant. Et donc, dans le livre, on présente ce dessin-là, l'œil de bœuf, dans différentes variations chromatiques pour voir justement comment la couleur aussi permet de mettre en valeur les dessins.
Mais ce motif-là, on peut le retrouver donc aujourd'hui sur les wax qui sont vendus en Afrique ou à Paris, par exemple. Si je vais à Châteauroux ou dans un quartier comme celui-ci, je peux retrouver cet œil de bœuf?
Tout à fait, et Châteauroux, c'est vraiment à Paris la capitale, la petite capitale du wax. Oui, il y a un choix absolument extraordinaire, dans aussi beaucoup de qualités différentes. On peut y acheter du Vlisco et puis d'autres faux wax, mais tout dépend de l'usage qu'on veut en faire et du budget qu'on a. Et tous ces dessins, vous pourrez les retrouver encore aujourd'hui assez facilement.
Et c'est précisément à Châteaurouge que s'est rendue notre reporter Ndeye Aladiba. Elle a pris le métro et elle a rencontré quelques figures du wax parisien.
C'est Kebi Wax qui vous informe. Beaucoup me connaissent dans la communauté africaine. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là dans le 18e. C'est comme les fleurs pour les Européens, pour les mariages, pour les naissances. Ça représente tout, on donne ça pour les dots, pour les décès. C'est nous, c'est le mode de vie, c'est les wax. Et ça ne sera jamais débondé, dès qu'il y aura des mariages, dès qu'il y aura des dots, dès qu'il y aura des naissances. Donc conclusion, dès qu'il y aura des humains, il y aura toujours du wax.
Bonjour, je suis Franck Zongo, je suis créateur de mode, je suis à Vitry-sur-Seine. Je travaille beaucoup sur la création et la mode d'influence africaine et urbaine. Je suis arrivé en France dans les années 2000. J'ai fait des études d'archi, d'art déco et de stylisme. Et en 2008-2009, j'ai ouvert mon studio de création à Vitry-sur-Seine. Pour l'histoire, moi, ma mère, elle était couturière, donc j'ai baigné en fait dans le wax depuis tout petit. Le wax, c'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de nos mamans, c'est l'histoire de notre création. Donc du coup, je me suis lancé dans le wax parce que je suis aussi passionné par le wax, par ses couleurs, par sa splendeur, son graphisme et l'histoire que cela raconte en fait. Si je peux conseiller les gens, c'est de pouvoir acheter des wax de qualité. La qualité, on peut le voir au toucher et on peut aussi se renseigner avec les vendeurs. Et acheter du bon wax, du vrai wax.
C'est comme ça, hein?
Oui, c'est comme ça. Oui.
Je m'appelle Camara Iba. Mon surnom, c'est Jazz. Je suis à Paris depuis 2011. Et j'exerce dans le métier de la couture, précisément à Châteaurouge, où j'ai plein de clients. Il y a tout le monde qui me connaît. Moi, sincèrement, ce que je préfère faire, c'est des robes silhouettes, des robes qui font sortir la forme, les robes qui mettent la femme en valeur. C'est des modèles que nous on faisait, nous mamans peut-être depuis des années 60, qui ont reproduit aujourd'hui, tu vois. Donc quelque part, la mode, ça ne se perd pas, quoi. La mode est toujours là. Ouais, mais si j'ai une préférence à te dire, c'est mon mari est capable, parce que je suis mari de quelqu'un. Donc si on est capable, le mari capable, c'est un très beau pagne. Je conseille toutes les femmes à acheter mon mari capable. Surtout quand le mari est capable, il faut le porter.
Mon mari est capable, c'est qu'elle est à mon latonanga na bomé monanga.
Moi j'aime bien les tissus qui ont un proverbe africain, par exemple. On a le tissu qu'on appelle Mon mari est capable, qui est un truc un peu rigolo, c'est un peu dans l'humour. C'est juste pour, entre les femmes, juste pour dire mon mari m'a fait un cadeau et ainsi de suite. Donc moi j'aime bien ce genre de pain-là.
Bon, gros succès visiblement hein, pour ce pagne. Mon mari est capable. Alors, c'est un classique, ça, Ngrofilet. Décrivez-le nous, ce pagne-là.
En fait, quand on le regarde, on a l'impression qu'on a des petites bouches. Mais l'origine de ce dessin, c'est un siège ottoman. Donc vraiment un détournement d'un objet qui n'a rien à voir. Et c'est un motif très très petit, parce qu'on parlait tout à l'heure de la taille parfois très très impressionnante de certains motifs. Et c'est un grand classique. Et ce qui est très drôle, c'est que justement, on dit jamais, mais il est capable de quoi même?
Voilà, c'est la question suivante que j'allais vous poser.
C'est juste, mon mari est capable. Et effectivement, oui, c'est un dessin qui traverse le temps et qui aime toujours énormément porter les femmes.
Mais donc, ça veut dire que c'est un message que la femme qui porte ce pagne envoie à ses amis, à ses copines, à ses rivales éventuelles?
Surtout ses rivales. C'est ce qui est intéressant dans le wax, c'est que c'est des messages que des femmes envoient à d'autres femmes et surtout à celles qui risquent de courtiser leur mari. Donc de dire aussi, mon mari il est capable, mais c'est pas la peine de t'en mêler parce que c'est un très bon mari finalement.
Voilà,
c'est
mon territoire, ne viens pas marcher dans mes plates-bandes.
Dans le même esprit que l'œil de ma rivale, c'est pour dire, j'ai bien vu que tu tournais autour, je cours plus vite que ma rivale, qui veut dire aussi, j'ai rien à craindre parce que... Donc il y a tout ce langage autour de des relations amoureuses qui est assez intéressant.
On peut aussi les rapprocher des ongles de Marie-Thérèse aussi.
Alors celui-ci c'est un de mes préférés, les ongles de Madame Thérèse qui évoque Thérèse Houphouët-Boigny, donc
la deuxième épouse du premier président indépendant de la Côte d'Ivoire.
Tout à fait, puisqu'une rumeur disait qu'il avait une maîtresse et elle aurait dit en public, si par hasard il a une maîtresse et que je l'attrape, je vais la défigurer avec mes ongles. Et donc les femmes encore aujourd'hui continuent d'acheter les ongles de Madame Thérèse en disant, moi je vais pas me laisser faire et je m'identifie à cette femme forte qui veut pas se laisser malmener par son mari.
Oui, donc c'est vraiment un message effectivement très très fort. Le cheval cabré là aussi, c'est je cours plus vite que ma rivale, c'est je peux me dresser comme ça pour faire peur, Ngrofilet.
Oui, c'est aussi un vieux dessin de 1930. Alors, il rappelle un petit peu le cheval de Ferrari, mais il a la queue en bas au lieu d'être en haut. Et il est antérieur. Et c'est effectivement ce message-là de dire ne vous approchez pas de lui parce que je peux cabrer et courir aussi très vite. Donc, je n'ai rien à craindre, mais n'essayez pas non plus de me provoquer.
Mais alors, d'une façon générale, Ngrofilet, les animaux qui sont extrêmement nombreux hein, sur les tissus, ils ont tous une signification, une symbolique particulière?
Alors, c'est souvent une consécration quand les dessins ont un nom, parce que ça veut dire que justement, il y a eu une rencontre entre ce que les industriels européens ont projeté, la manière dont ils pensaient appréhender les sociétés africaines dans leur diversité, et puis la perception qu'ont pu avoir les femmes, puisque ce sont elles qui donnent des noms. Et donc quand ça match pour des raisons très différentes, parce qu'un nom peut avoir un dessin peut avoir des noms différents suivant les marchés, donc ça veut dire qu'ils ne touchent pas les gens pour les mêmes raisons. Mais là, c'est vraiment une source de grande satisfaction. Et c'est vrai que les animaux, on le retrouve aussi en France avec les fables de La Fontaine. C'est souvent le support de métaphores. Donc, on a aussi la poule qui est avec les poussins et le coq qui va être le symbole de la famille. Des canards en vol autour de la migration. Et puis, une hirondelle aussi qu'on dénomme au Ghana « Même l'argent s'envole ».
Même l'argent s'envole, oui, voilà, Money Can Fly, hein, c'est ça, hein, le titre au Ghana, c'est aussi une façon de dire, quoi, faut pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est-à-dire qu'on parlait de La Fontaine à l'instant avec vous, et une petite forme de morale aussi qui peut finalement se dégager de certains motifs.
De temps en temps, il y a à la fois de l'humour et de la légèreté, et puis aussi une manière de dire des choses plus... plus intérieur, il y a par exemple un panne très fort qui s'appelle d'évaluation. Donc c'est un dessin des années 1957. Et les femmes demandent à le ressortir, à le réimprimer, demandent à Vlisco au moment de la dévaluation du franc CFA en 1994. Et elle l'appelle dévaluation parce que elles veulent dire qu'elles-mêmes se sentent dévaluées en tant que personne. Et de dire comment la France, comme ça la Banque de France, peut décider du jour au lendemain que les retraites de nos parents, par exemple, notre pouvoir d'achat diminue, est coupé par deux du jour au lendemain. Nous, en tant que personne, on se sent dévalué. Donc il y a à la fois ce côté très léger de taquinerie, et puis aussi c'est vraiment une expression, une exhortation en fait, qui passe par les noms d'épagne.
T'occupais-tu de ma vie? Laisse-moi affairer ma vie. Pourquoi t'occupais-tu de tout ce que je fais? Laisse-moi profiter de ma vie. Le soleil brille pour tout le monde. La lune brille pour tout le monde. As-tu appris que j'ai réussi? Tu ne peux pas supporter cela. Tu es parti trouver les féticheurs. Au colon, mais je t'ai mauvais sort. Tu as attrapé des palpitations. Ta jalousie est connue dans le quartier.
Scandale de jalousie à Betty Messichini sur RFI, surnommée la tigresse aux griffes d'or dans VMDN. Et j'ai lu à Andrew Filet qu'un tissu wax avait été créé et nommé à partir de cette chanson. D'ailleurs, jalousie, c'est aussi le nom d'un motif wax, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'index, parce que c'est très important à la fin du livre, hein, Wax 500 tissus que vous publiez aux éditions de La Martinière. Il y a un index avec les noms d'usage et les noms d'usine, hein, de chacun des dessins. Alors dites-nous quelques mots justement sur jalousie.
Jalousie, c'est encore un très vieux dessin qui représente deux pans, en fait. Et c'est un peu celui qui va faire la roue et qui va réussir à courtiser la femelle. Donc on passe encore avec ces métaphores animales et voir comment les représentations animales deviennent source de messages qu'on envoie.
Mais alors c'est la même chose pour les végétaux ou pour les objets que l'on peut retrouver sur les différents tissus. Il y a aussi cette force symbolique là qu'on retrouve pas uniquement chez les animaux.
On a effectivement les feuilles de piment, les feuilles de gombo, de patates. On a aussi au niveau des objets, par exemple, on a un très beau pagne, donc là beaucoup plus récent, qui s'appelle le sac à main de Michel Obama. Alors en fait, il représente un sac très chic de maroquinerie de luxe française, on va dire, avec un petit détail, un petit hibiscus, qui est un dessin Vlisco des années 1950. Et quand il arrive sur le marché de Kinshasa, Barack Obama vient d'être élu et Michelle Obama devient une femme très très emblématique, la première dame noire des États-Unis. Et donc les femmes disent, déjà Madame Thérèse avait été appréciée, mais là on dit non, c'est une femme vraiment exceptionnelle. par son parcours. Et donc, on veut s'identifier à elle. Et donc, ce dessin juste de sac à main devient le sac à main de Michelle Obama.
Donc, l'Obamania s'est aussi imprimé sur le wax. Par madame, mais aussi par monsieur, parce qu'on a retrouvé la figure de Barack Obama également.
Alors, il y a deux aspects. Il y a d'un côté des pagnes à l'effigie de Barack Obama ou même du couple Obama, où on les représente vraiment de manière concrète. Et puis, après, il y a des dessins, Blisco notamment, qui sont sortis, qui ne font aucune allusion au niveau graphique à la famille Obama, mais qui deviennent, par justement cette magie, cette adéquation entre un dessin et une réinterprétation du marché, le sac à main de Michelle Obama, le cœur de Barack Obama, l'arbre d'Obama. Donc il y a, je crois, jusqu'à 7 dessins qui ont fait l'objet d'associations à la famille Obama.
Mais alors là, on en arrive à la politique. Il y a des pagnes politiques, c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement sur du tissu des visages de chefs d'État africains ou pas seulement, d'ailleurs, de candidats à des élections. Le wax peut aussi servir de support à une affiche de propagande électorale.
C'est vraiment un tissu pour communiquer, effectivement. Alors, ça se fait par le wax et par d'autres imprimés, comme je disais, qui s'appellent Fancy. Et là, effectivement, c'est le candidat ou le président qui va demander à l'usine d'imprimer un tissu à son effigie. L'exemple le plus frappant, c'est le général Mobutu. Parce qu'en fait, dans sa politique de zaïrisation, il avait interdit les prénoms chrétiens, il avait supprimé le port de la cravate, promu la bacoste. En revanche, c'était un des meilleurs clients de l'usine anglaise ABC. Et on retrouve dans leurs archives plusieurs dessins à son effigie. Et il y en a un avec une étiquette qui précise qu'il avait demandé 250 000 yards, c'est-à-dire à peu près 240 000 mètres de tissu à porter juste pour une parade, parce qu'il voulait voir une foule entière face à lui porter, finalement, arborer son portrait.
Mais alors, on se dit que l'étape suivante, c'est le panneau publicitaire, quoi. Pour des entreprises, pour des grandes marques internationales, elles y ont pensé?
Alors, ce qui est très très intéressant dans cette notion d'uniforme ou de publicité, c'est que là, justement, tout le monde va porter le même tissu et il y aura cette notion de cet effet d'uniforme visuel. En revanche, la personnalité de chaque personne va s'exprimer à travers le type de vêtement qu'il va coudre, puisqu'après, chaque vêtement est cousu sur mesure par un tailleur. Donc moi, je vais peut-être choisir une petite robe à bretelles, un chemisier, une veste, un bermuda, un pantalon, etc. Donc il y a à la fois ce côté visuel et unifiant du tissu et du motif et la personnalité de chacun qui s'exprime. Et aujourd'hui, Uniwax vient de lancer ce qu'ils appellent le pagne à la demande, où on peut effectivement personnaliser son pagne, inscrire une petite phrase, choisir la photo qu'on veut. Et comme ça, des familles, des chorales, etc. peuvent aussi porter ça. Et ça se fait à partir d'une application de smartphone. Donc ils ont vraiment...
Donc l'avenir du wax est complètement assuré, quoi. Ça, de ce point de vue-là, pas d'inquiétude à avoir, le tout est de savoir qui tiendra les cordons de la bourse, quoi, s'il sera vraiment un wax 100% africain ou un wax asiatique ou encore un peu européen.
Tout à fait, donc 125 ans d'histoire du wax, mais qui a encore de très belles années devant lui.
Merci beaucoup Anne Grofilet d'être venue nous voir. Je rappelle que votre nouveau livre Wax 500 tissus est publié aux éditions de La Martinière.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction Addis Abeba avant de se quitter, la capitale éthiopienne où les immeubles en béton et vert poussent comme des champignons, une ville qui a parfois du mal à faire honneur à son nom en Amérique, nouvelle fleur. La ville accueille tant bien que mal ses 4,5 millions d'habitants environ. Addis est vallonnée, traversée par plusieurs rivières et un grand projet du nouveau gouvernement vise à leur refaire une beauté. Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître que la saleté domine, que les déchets débordent sur les rives, jetés par les habitants, traînés là par la saison des pluies. C'est exactement à quoi ressemblait il y a encore 5 ans, le musée Zoma, le dernier né des lieux culturels d'Addis Abeba, vient d'ouvrir ses portes à la fois à musée, école ou jardin. Un havre de paix que nous fait découvrir pour VMDN Vincent Dublanche.
Ce matin-là, le calme est seulement brisé par des travaux dans un immeuble de 2 étages tout proche. Une verrue que Meskerem Asseged a réussi à récupérer auprès du propriétaire. La cofondatrice du Zoma va tout faire pour l'intégrer au mieux au paysage de son musée. Fleurs, arbustes, plantes aromatiques, arbres, légumes, voilà le paysage proposé. Le parcours, tout en descente, est tracé en différents chemins tortueux.
Ce n'est pas droit car la nature elle-même ne suit pas une ligne droite.
Quand Meskerem et son compère, l'artiste Elias Simé, ont acheté cette parcelle à flanc de colline qui descend vers la rivière Akaki, tout n'était que détritus.
On a eu un gros travail de nettoyage pour enlever le plastique et les produits toxiques aussi. On a dû creuser environ 50 cm et donc l'endroit était quasiment entièrement vierge.
L'eau s'écoule par des petits canaux, elle est désormais filtrée par des plantes avant de plonger dans la rivière.
On essaye de corriger tout ce qui existe dans la ville, tous les problèmes que l'on y rencontre. L'enceinte tout entière est accessible aux personnes handicapées, donc il n'y a aucun endroit que je ne peux pas voir et qu'une personne en fauteuil roulant ne peut pas voir. Donc on essaye de créer un espace où appliquer nos idées pour une ville telle qu'on la rêverait.
Pour enjamber les canaux, des ponts, de bois pour l'instant.
Alors, ils attendent les artistes du monde entier afin qu'ils transforment en un pont représentant leur pays. Une de nos plus grandes missions est d'être un endroit pour l'humain. Vous voyez, le sujet c'est l'environnement et l'enceinte dans son ensemble fait partie du musée car vous y trouvez des plantes que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc, il faut les voir comme partie intégrante du musée. Et le musée lui-même est un passeur d'art, pas seulement éthiopien, mais du monde entier. C'est toute l'idée, faire venir des artistes du monde entier.
Un peu plus haut, sur la terrasse surplombante, plusieurs petits bâtiments de chaume et au toit de bois. Ils abritent une boutique d'artisanat, une grande fresque murale faite à partir de touches de clavier d'ordinateur et bientôt une collection de monnaies anciennes de l'Éthiopie. Les murs extérieurs sont sculptés dans le chaume par Elias. Des feuilles, des empreintes digitales géantes et le cycle de la vie du papillon.
Les idées ici s'expriment dans différents langages. J'ai utilisé d'anciennes techniques, mais avec des idées neuves pour les amener dans le présent et créer de la nouveauté. Donc il s'agit aussi d'un bâtiment contemporain, voire qui évoque le futur.
Une centaine d'enfants sont aussi accueillis au Zoma, du quartier ou pas. Ils apprennent la langue des signes, le braille et la langue de la nature.
Je pense que c'est un nouveau concept muséal. Vous savez, les musées ont toujours des espaces réservés aux enfants. J'en ai vu dans tous les musées majeurs. Mais ici, on pousse le concept plus loin et on a une école. C'est un musée qui nécessite que vous changiez de paradigme. Vous devez abandonner tout ce que vous savez des musées.
Reportage de Vincent Dublanche pour VMDN. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec l'actrice Déborah François pour le film de Romain Cogitor, L'autre continent, qui sort mercredi prochain sur les écrans français. Et vous m'en direz des nouvelles.